Vous écoutez du Trizac. Cube Radio.
Loïc Tassé est avec nous. Bonjour, M. Tassé.
Bonjour, M. Dutrisac.
Alors, aux États-Unis, la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême est scellée. Et c'était les funérailles de la juge aujourd'hui aussi.
Oui, la juge Ruth Ginsburg, qui est morte, donc est décédée vendredi dernier. Ça se fait, écoute, le corps est encore chaud, là, tu sais. Il y a, en ce moment, effectivement, elle est en chapelle ardente à la Cour suprême. Donc, pendant deux jours, les gens peuvent venir, si tu veux, une dernière fois la voir. Et Trump, d'ailleurs, a dit qu'il irait demain. Mais le problème, c'est que effectivement, les républicains ont même pas attendu un tout petit peu, ce qui aurait été décent en fait, pas du tout. Donc le dernier sénateur républicain qui aurait peut-être pu refuser de voter pour un nouveau juge avant l'élection du 3 novembre, Mitt Romney a dit que oui, il allait voter pour la personne que Trump lui désignerait. Alors, tu sais, c'est fait. Là, la seule question qu'on se pose, c'est qui ça va être exactement. Mais il y a des problèmes parce que on pense que ça risque d'être des fondamentalistes, une fondamentaliste religieuse qui va être là. Et ça pose un gros problème parce que tu sais, c'est les juges sont supposés interpréter la loi d'après leur connaissance de la loi. La loi, je le rappelle, c'est ce que les élus ont décidé démocratiquement. Mais si t'as un juge qui dit « Moi, je fais passer mes croyances religieuses avant la loi », ben, à l'avance, ce juge te dit « Je vais violer la loi, je vais suivre mes croyances religieuses plutôt que de suivre la loi. » Il y a un problème.
Mais quand t'as Dieu dans la Constitution, dans la rédaction de la Constitution, ben, t'as beau dire qu'on va séparer l'Église et l'État, ça marche pas non plus.
Oui, mais c'est pas exactement la même chose aux États-Unis. Oublie pas qu'aux États-Unis, le vrai problème avec la religion, c'est qu'il y a beaucoup de pèlerins américains, de pèlerins anglais d'abord, qui se sont réfugiés aux États-Unis parce qu'ils étaient pourchassés. Et donc, c'est dans la Constitution américaine, et encore, il y a eu de grandes discussions là-dessus. T'as par exemple un Benjamin Franklin qui voulait rien savoir de mettre Dieu dans la Constitution, mais ça a été mis là, je te dirais, pour deux raisons. D'abord, pour protéger les religions aux États-Unis, et c'est trop protégé aux États-Unis, mais encore une fois, ça se comprend par l'histoire, par la persécution dont les pèlerins avaient été l'objet en Angleterre, d'accord. L'autre raison, c'est que t'as un Dieu qui est dans la Constitution, qui est pas véritablement un... Comment te dirais-je? C'est une évocation de Dieu, c'est certain, mais c'est plus un Dieu... dans le sens occidental du terme, et les gens qui ont écrit la Constitution à cette époque-là étaient tout à fait d'accord avec la séparation entre l'Église et l'État, c'est-à-dire que, et ça vient, si tu veux, du Moyen-Âge, déjà au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, on avait résolu le problème, on avait dit, on donne à Dieu, et tu me pardonneras le terme, mais il est joli, il est poétique, on donne à Dieu le monde lunaire et aux hommes le monde sublunaire. C'est-à-dire, tout ce qui est dans la sphère terrestre, ben, c'est les êtres humains qui en décident. Et tout ce qui est en dehors de la sphère terrestre, ben, ça, c'est de la métaphysique, c'est du domaine de Dieu. Et donc, on a très, très clairement fait la scission. Et dans une démocratie, on dit aux gens, vous faites les lois, vous décidez des lois, suivant votre âme et conscience, bien sûr, mais c'est décidé dans une démocratie démocratiquement par l'ensemble des gens. T'as pas à mettre quelqu'un qui arrive et qui dit, écoutez, moi, ma croyance religieuse me dit que les lois sont pas bonnes. Non. Si vous voulez faire ça, faites revoter une nouvelle loi.
Non, mais ça, c'est ton interprétation, là. Si t'es un intégriste religieux, tu regardes la Constitution puis tu dis, ben, voyez, là, on fait référence à Dieu, donc c'est acceptable qu'un juge soit un fervent catholique ou un fervent n'importe quoi.
Oui, mais regarde, t'as la même chose que les fondamentalistes religieux islamistes disent. Ils disent, ah, ben si vous mettez au pouvoir des fondamentalistes religieux, les fondamentalistes religieux ont le droit de tout bousculer, de tout bousiller, même s'ils ont promis le contraire, etc., parce qu'ils vont faire la loi de Dieu. On n'a plus besoin ensuite d'avoir, n'est-ce pas, de démocratie. Ils sont en contact direct avec Dieu, ils décident. T'avais des communistes qui parlaient de la même façon, qui disent, ah, si vous nous mettez au pouvoir, c'est la classe des laborieuses qui est au pouvoir. On n'a plus besoin d'avoir d'élections parce que nous, on représente l'immense majorité de la population. C'est toujours la même chose. C'est toujours une façon de court-circuiter la volonté populaire. Et au nom de Dieu, cette fois-ci, mais c'était au nom d'Allah ou au nom, encore une fois, des classes populaires avant. C'est toujours la même chose.
Bon, discours de la Chine et de la France à l'ONU.
Oui, ben tu sais, on a parlé du discours de Donald Trump. Et on a un petit bout de discours. Je vais toujours te parler peut-être de Xi Jinping, qu'il appelait au multilatéralisme, qui a dit aussi on veut que tout le monde travaille avec nous, et qu'il a dit c'était intéressant, qu'il voulait pas d'une nouvelle guerre froide. À mon avis, c'est un peu tard et c'est pas vraiment vers là que on s'en va. Mais il a aussi annoncé, et ça c'est intéressant, que la Chine serait carbone neutre d'ici 2060. Ça aussi c'est un peu tard, mais ça vaut mieux que rien. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Mais on a aussi Macron qui a parlé, et on a un extrait d'ailleurs de ce que Macron a dit.
Le monde tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas se résumer à la rivalité entre la Chine et les États-Unis, quel que soit le poids mondial de ces deux grandes puissances. La crise, l'effondrement de nos cadres de coopération, les fragilités que je viens d'évoquer, nous imposent de rebâtir un nouvel ordre.
Bon, des vœux pieux?
Ben, non, c'est plus que des vœux pieux. C'est, écoute, faut pas que le monde soit dirigé par les États-Unis et par la Chine. Faut pas que la rivalité entre les États-Unis et la Chine dirige le monde. Malheureusement, c'est ça qui est en train de se produire. Dans ce sens-là, t'as raison, c'est des vœux pieux. Mais par contre, ce qu'il dit aussi, c'est que on peut développer toutes sortes d'alliances, et d'ailleurs les pays démocratiques le font, pour justement contrebalancer ce que font ou ne font pas les États-Unis, et ça, on en a besoin. Et donc, il va un peu dans cette direction-là. La France reste quand même une grande puissance. C'est quoi, la cinquième économie au monde, elle a quand même de l'armement atomique, etc. Mais c'est sûr que la France seule ne peut pas agir, et c'est sûr qu'à l'intérieur de l'Union européenne, malheureusement, la France est un peu paralysée en ce moment, donc ça prend quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on va aller vers ça? Là, on peut en douter, effectivement. Mais soyons optimistes. Moi, je vais être optimiste aujourd'hui.
Ben, on va être optimiste. Tu veux nous parler d'une bonne nouvelle, les Turcs et les Grecs qui négocient?
Ben oui, tu sais, on avait parlé de ce gisement gazier à plusieurs reprises. On en a parlé en fait en Méditerranée de l'Est, et ça allait très mal entre l'Union européenne et la Turquie. Ben finalement, justement, Macron a dans son discours dit écoutez, il faudrait qu'on négocie. Erdogan a dit aussi écoutez, il faudrait qu'on négocie. Résultat, les deux se sont téléphonés mardi soir.
Bon.
Et alors, ils se sont parlé, ça a relativement bien été, semble-t-il. Erdogan, a-t-on appris, a demandé une attitude constructive à la France, et Macron a demandé à la Turquie une désescalade militaire. Donc, ça ouvre une perspective d'exploitation en commun des ressources gazières qu'il y a dans la région. Ça règle pas du tout le contentieux territorial entre la Grèce et la Turquie et Chypre, mais quand même, c'est un pas dans la bonne direction. Ça règle pas du tout non plus le problème d'Erdogan, qui est un islamiste à petits pas, mais ça fait plaisir à l'électorat d'Erdogan. Je te dirais cependant que le fond du problème, ben, c'est que ça montre que quand t'as une approche musclée, ben, ça fait bouger les choses à l'international. Et ça va pas vraiment dans le sens des négociations. On veut pas voir ça trop souvent.
Walt Disney.
Oui. Tu sais que Walt Disney a fermé, a été obligé de fermer tous ses parcs d'attractions à travers le monde. Puis ils ont rouvert à Shanghai, à Paris. Ça a réouvert en Floride aussi. Et en ce moment, Walt Disney fait la demande aux autorités de Californie en disant, écoutez, puisqu'on a réouvert à Paris, à Shanghai et en Floride, Orlando, pourquoi est-ce que on pourrait pas rouvrir aussi en Californie? Ah, s'il vous plaît, rouvrez donc en Californie. Ben oui. Puis ils disent, en plus, il y a 80 000 emplois directs et indirects qui dépendent de ce parc d'attractions. Alors, j'ai été voir les chiffres, moi, en Californie. Mais sais-tu que, en Californie, t'as des taux de contamination qui sont encore extrêmement élevés. D'abord, t'as 35 000 cas de contamination par jour aux États-Unis en général. Ça, c'est comparable à la situation du début avril. Et donc, c'est des gens qui vont voyager d'un peu partout aux États-Unis, qui vont se retrouver dans les parcs d'attractions. Moi, je les aurais pas ouverts. Mais surtout, de toute la Californie est l'État qui compte le plus de cas de COVID-19. Il y en a près de 800 000.
Et,
oui. Puis en Californie même, la ville de Los Angeles, où il y a le parc d'attractions, compte, elle, 270 000 cas. Plus que ça, même. Ben, tu sais, quand tu compares avec, par exemple, Disneyland en Floride, il y a 39 000 cas. Moi, sais-tu, entre la Californie puis la Floride, j'hésiterais pas longtemps, hein. Si tu tiens tant à aller à Disneyland, ben, tu vas en Floride en ce moment. Ça pose un problème, tu vois. Il y a vraiment, tu vois vraiment que les dirigeants en ce moment de Disney sont en train de perdre de l'argent. Puis malheureusement, ben on a vraiment l'impression qu'ils essaient de faire passer leur profit avant la santé des gens.
Mais ils forcent personne à y aller, là. Si les gens y vont, c'est de leur propre chef.
Oui, mais c'est dangereux. C'est parce que t'as beau dire, on va avoir des mesures de distanciation, etc. C'est vrai. Mais tu sais, c'est comme les restaurants qu'on a fermés ici. Si tu peux dire, oui, mais les gens pouvaient aller au restaurant de leur propre chef. Oui, mais l'État a bien fait de fermer un certain nombre de restaurants parce que sinon, ouais, ça aurait augmenté la contamination. Ben, c'est la même chose en Californie. Si tu ouvres le parc d'attractions de Disney, tu risques d'accélérer la contamination, à mon avis.
Et moi, je suis allé une fois à Orlando, là, et puis ils vendent des grosses pattes de dindon, là.
Tu sais, c'est énorme.
Mais juste ça te garde à 2 mètres de distance. Il n'y a personne qui peut t'approcher avec ça. Et paraît-il, Loïc, que Jésus a été arrêté en Russie.
Oui. Oui, c'est une nouvelle qui me semble importante. Il s'appelle le Jésus de Sibérie. C'est le gourou d'une secte religieuse qui s'appelle, en fait, de son vrai nom, Sergueï Torop. Et il a fondé l'Église du Dernier Testament. Alors, il se dit Jésus-Christ ressuscité. C'est un mélange de bouddhisme, de christianisme, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Il y a des centaines de personnes qui le suivent. Il a fondé en Sibérie, dans les forêts reculées, une cité qui s'appelle la Cité du Soleil, et sa cité devient très très populaire parce qu'il n'y a pas de COVID-19 dans sa Cité du Soleil. Donc il y a plein de gens qui s'en vont là-bas en disant, mais on est vraiment intéressé par votre doctrine. Le seul problème, c'est qu'il faut que tu donnes une grosse partie de tes revenus à ce Jésus de Sibérie, à Sergueï Torop, et il faut que tu lui jures aussi une obéissance absolue. Ce qui est normal, parce qu'évidemment, tu peux pas désobéir au Fils de Dieu, n'est-ce pas?
Ben non.
Mais donc, Torop vient d'être arrêté. Il a été accusé d'extorsion et de violence psychologique. Et donc, ça va dans la lignée de ce que font les autorités russes. Elles interdisent en Russie beaucoup de sectes, dont les Témoins de Jéhovah, d'ailleurs, aussi.
Bon, ben écoute, on se laisse là-dessus sur ces bonnes paroles. On souhaite bonne chance à Jésus, la Russie.
Je pense qu'on a manqué notre carrière. On aurait dû partir une église.
Il y a toujours le temps. C'est toujours le temps, là. Surtout en temps de pandémie. Mais là, on n'aurait pas plus que 250, même pas 50 personnes.
En ligne, Benoît.
En ligne. Puis écoute, avec les cartes de crédit.
Ils ont vraiment juste 10% de leur salaire, par exemple.
Ben oui. On travaille là-dessus. Loïc, merci.
On s'en parle demain. Salut.